Québec se lève.
La chronique historique de François Terrien. Voici le studieux Sieur de Terrien.
Maître Terrien, bonjour.
Bonjour, cher monsieur, madame.
Anne-Sophie nous parlait de 18 présentement, puis de la température pour la journée. On a un mois de juillet pas pire, mais j'aime le sujet que tu as choisi pour cette semaine, parce que ça n'a pas toujours été des beaux étés.
Non, et celui dont je vais vous parler, ça en a été un moche, mais pas à peu près. Parce que faut se le dire, là, une des constantes de l'univers québécois, c'est de se plaindre de l'été. Il est très rare que la météo, pendant cette période, réalise l'exploit de satisfaire tout le monde. Il y a quelques années qui font exception, et 1816 en fait partie, mais pour une raison surprenante, l'été fut aux abonnés absents, littéralement. Au Québec, mais aussi à travers le monde, 1816 fut une année sans été. La façon dont ça s'explique, c'est qu'entre le début du 14e siècle et la fin du 19e, donc grosso modo entre 1300 et jusque dans les années 1860, la Terre vit ce qu'on a appelé un petit âge glaciaire. Les températures sont à la baisse un peu partout, sans que l'on sache exactement pourquoi. De toute évidence, c'est une série de facteurs qui l'expliquent. D'abord, il y a une série d'éruptions volcaniques rapprochées qui forment une partie de la réponse, une grande partie de la réponse, je vous dirais. Mais aussi, il y a les fluctuations de l'activité solaire. Or, selon les scientifiques, il y a eu une baisse de l'intensité de l'activité du soleil quelque part entre 1790 et 1830, donc dans la partie qui nous intéresse. Puis, il y a aussi les pandémies qui déciment les peuples autochtones des Amériques, qui pourraient faire partie de l'équation. Parce qu'on estime, les estimations varient beaucoup, là, mais on estime que ceux-ci, là, les Autochtones de toutes les Amériques, du Nord, Centrale et du Sud, parce qu'il y en avait plus en Amérique centrale et en Amérique du Sud à ce moment-là, ils seraient passés de 60 millions à 6 millions en un siècle. Une diminution de 90 %, ouais, c'est beaucoup, là. Puis ça aurait eu pour effet un retour de la végétation sur un grand territoire. Ainsi, la concentration de CO2 dans l'atmosphère se serait considérablement réduite, d'où la baisse de température.
Ah, c'est c'est le contraire de l'effet de serre rendu là?
Exactement. Si c'est le cas, ça veut dire que l'impact de l'humain sur le climat précède l'ère industrielle. Mais toujours est-il que depuis le début de l'ère industrielle, là, autour de 1880, ben, la température terrestre est en hausse. Ici, on n'a évidemment aucune donnée ou écrit avant les années 1600, là, mais on sait qu'à la fin du 18e siècle, donc les années 1700, les habitants notent un refroidissement général. Les étés sont moins cléments, davantage pluvieux, puis les hivers sont plus rigoureux. Puis déjà, dans les premières années 1800, les récoltes sont moins abondantes, ce qui inquiète les gens, car pour survivre à l'hiver, là, ils doivent produire suffisamment de denrées. Là. Si les récoltes sont pas bonnes, l'hiver va être dur à passer. Et les récoltes sont généralement mauvaises dans les 15 premières années de ce siècle, mais 1816 les surpassera toutes. Parce que, comme je vous le disais, les premières années du 19e siècle sont marquées par plusieurs éruptions volcaniques importantes. Puis on en note une, en fait, il y en a quatre qui se démarquent dans un laps de temps rapproché. Il y en a une en 1809 d'un volcan inconnu, aussi deux autres dans les Caraïbes en 1812 et aux Philippines en 1814. Alors, juste en 5 ans, il y en a 3 d'importance, mais c'est celle du Tambora. Ça, c'est un volcan qui est situé en Indonésie. Elle va être catastrophique. Celle-ci est particulièrement puissante. Elle dure pendant 10 jours, du 5 au 15 avril 1815, donc l'année précédente à 1816. Les quantités de cendres relâchées dans l'atmosphère seront suffisantes pour réduire considérablement les températures, particulièrement en Europe du Nord et dans le nord-est américain, donc chez nous. Pourtant, l'hiver 1816 semble assez doux selon les écrits qui ont été laissés, particulièrement sur la côte atlantique des États-Unis. Mais le printemps est différent et le mercure ne vient pas à bout de monter. C'est que la forte concentration de cendres volcaniques dans l'atmosphère, là, avant que ça se répande partout au-dessus de la Terre, ben, ça a pris du temps. Mais là, en 1816, là, il y a comme un smog qui est présent tous les jours, un peu partout sur la surface du globe.
Hey, t'imagines-tu la quantité de cendres que le volcan a expulsé pour avoir un smog planétaire qui fait descendre la température? Tu sais, on se dit qu'on se bat contre les éléments des fois, puis on pense gagner, on oublie ça, là.
Mais la qualité de l'air aussi, ça devait être l'enfer.
Ben, ça, mais malheureusement, on n'a pas de données là-dessus, sauf que souvent, c'est que ces particules-là vont être en haute atmosphère. Donc, il n'y a pas vraiment d'effet sur la qualité de l'air en bas, sauf que les rayons du soleil ne réussissent pas à percer.
Et ça, c'est faire un voile à la grandeur, là.
C'est ça, exactement. Ils percent, mais pas aussi fortement qu'à l'habitude. D'ailleurs, on évalue la baisse des températures à 1 degré en moyenne sur toute la planète cette année-là. Alors, c'est quand même beaucoup. Et puis, à Québec, il y a une tempête de neige qui frappe la ville au début du mois de juin. On dit qu'il y a environ 30 cm qui se sont abattus sur la ville. On parle de calèches prises dans la neige jusqu'aux essieux. Là. Ça vous donne une idée. Là. On n'est pas au mois de février. Là. On est en juin. Alors, c'était un aperçu assez brutal du type d'été ou d'absence d'été qui sévira partout sur le territoire. Déjà, lors de l'été précédent, celui de 1815, les récoltes sont décevantes en raison de gelées précoces au mois d'août. Puis, quand on regarde les écrits des gelées au mois d'août là, dans des endroits sur Terre où d'habitude, il n'y en a pas ou il y en a peu, il y en a eu. Alors, déjà, là, en 1815, les effets de l'éruption du Tambora se faisaient sentir. Puis en 1816, là, les fameux gelées sont encore plus précoces. En fait, il va geler pendant pratiquement tout l'été. Pour vous donner une idée, au New Jersey, donc on est pas mal au sud de chez nous, il a été rapporté qu'il y avait eu du gel pendant 5 nuits consécutives en juin. Un mois où il n'y en a pas d'habitude, là. Puis dans l'État de New York, un peu plus au nord de la ville de New York, il y a des températures sous zéro qui ont été enregistrées pendant pratiquement toutes les nuits en mai. Alors d'habitude, là, chez nous, à partir du 15 mai ou à peu près, des gelées, il n'y en a plus. Là, on est pas mal plus au sud, pas loin de New York, puis en mai, il a gelé tout le temps. Alors imaginez-vous ici, ça devait ressembler à ça. Il est même fait état de glace dans certaines rivières de Pennsylvanie en juin. Bref, là, ça n'a aucun bon sens. Mais au-delà des phénomènes météo jamais vus, c'est la survie des gens qui est l'enjeu principal. Parce qu'au début du 19e siècle, chez nous, ce sont encore les récoltes qui dictent l'avenir immédiat de la population. On est encore à une agriculture de subsistance. Alors, assez rapidement, comme au début des années 1800, les récoltes étaient ordinaires, il y a un système de charité privée qui s'était mis en branle dans les années précédentes, car il était difficile pour certains de passer à travers l'hiver en raison des récoltes qui étaient de plus en plus petites. Mais cela ne suffit pas, puis il y a un appel qui est lancé aux autorités parce qu'il y a des gens qui ne survivaient pas carrément. Celle-ci coordonne l'achat de denrées pour les distribuer aux endroits les plus touchés par le mauvais temps. Par exemple, dans le Kamouraska, le tiers des résidents de Saint-André manque de pain à l'hiver 1816-1817.
On s'entend que le pain, dans ce temps-là, c'était une des principales sources d'alimentation. Là, tu manges du grain, tu mous ça, tu fais ton pain, puis voilà.
Ben c'est que... Entre autres, là, c'est la culture du blé qui est le plus durement touchée par les mauvaises conditions climatiques. Quand on lit un peu partout, on a plus d'écrits du côté des États-Unis que chez nous, là. Mais les cultures de fruits, par exemple, et de légumes, c'est pas si mal. C'est pas autant qu'une bonne année, mais ça va. Mais le blé, c'est vraiment difficile, d'où le manque de pain. Puis aussi, chez nous, il y a le lait qui se fait rare pendant ce drôle d'été. Mais grâce aux mesures qui ont été prises depuis quelques années, là, avant 1816, en raison des piètres rendements agricoles, on a pu éviter des famines catastrophiques chez nous. Mais il y a d'autres pays, comme la Chine, qui n'y ont pas échappé. Puis il y a la malnutrition qui fut aussi la cause de plusieurs épidémies dans certains endroits du globe. Bref, les événements de l'année 1816 sont considérés comme la dernière crise de subsistance à toucher le monde occidental. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'agriculture, les techniques agricoles sont de plus en plus poussées, puis ont réussi, dans les mauvaises années, à nourrir tout le monde quand même. Alors, 1816, c'est une année importante pour le monde occidental, parce qu'après ça, des crises de subsistance, il n'y en aura plus, du moins à grande échelle. Mais il y a eu d'autres années difficiles chez nous. 1834, notamment, ça a été une année très mauvaise pour les récoltes, mais rien de comparable à l'année sans été de 1816. Mais il y a certains pays européens, l'Irlande, entre autres, qui peineront à se sortir du cycle des pénuries alimentaires dans les années qui vont suivre. Ce sera d'ailleurs le point de départ d'une immigration vers l'Amérique du Nord.
C'est vrai.
De nombreux Européens, dont les Irlandais. Ceux-ci seront nombreux à venir s'installer chez nous dans les années 1840-1850. L'histoire de Grosse Île en témoigne. Pour le moment, l'été 2021, c'est pas un été extraordinaire, pas parmi les plus beaux, il n'est pas quand même pas si pire, mais avant de vous en plaindre, pensez à celui de 1816, parce que l'été en 1816, il n'y en a pas eu.
Ça a été, apparemment, ça a été hiver, printemps, 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 hiver.
Oh, et puis c'est ça. Puis automne à travers ça, là. Ça a été vraiment une année catastrophique.
Merci beaucoup, François. On se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique, ma foi, fascinante.
Certainement. Bonne semaine à tout le monde.
Salut. Salut.
Bye.
8h50 au FM 93. Imaginez-vous, là, le sujet, le prédilection des Québécois, ça reste la météo. Quand tu croises quelqu'un que ça fait longtemps que t'as pas vu, là, c'est après le « Salut, comment ça va? »«
Hey, il fait beau. »«
Hein, fais-tu beau? »« Ouais, hey, fais-tu frette, hein? »« Ah, pas de soleil. Ah, » Puis après ça, tu parles des Canadiens, ben ça, t'as plus rien à dire.
Mais on a toujours une raison de chialer, mais ça, tu sais, oh. Fait trop chaud aujourd'hui. Eh, le soleil, il tape. Oh, la pluie. Mais eux autres, ils avaient le droit de chialer, mettons, là.
Oh oui. Oh, oui. Je me suis fait dire que les endroits dans le monde où la température ressemble à ce qu'on a ici. Parce que, tu sais, quand t'es dans les Caraïbes, il fait soit toujours très chaud ou c'est la saison des pluies. Tu sais, il y a comme deux saisons, puis il n'y a pas tant de variations de température que ça. Mais des endroits comme ici au Québec, en Angleterre, Londres, où il va pleuvoir, après ça, il va faire soleil, après ça, il va faire froid, après ça, il va faire chaud. Partout, la température, le temps est pas stable. C'est un des sujets de prédilection. C'est un sujet que tu peux jaser là, à l'infini tout le temps.
Mais Londres, c'est la pluie. Là. C'est constant. C'est presque constant à Londres. C'est juste que c'est de la pluie seulement.
Ben, Vancouver, un peu la même chose. Ben, j'ai habité là pendant un été de temps, une vingtaine d'années. Puis, tu sortais le matin, c'était super beau. Je rentrais travailler, je ressortais, c'était mouillé à grandeur.
Ouais,
mais il faisait encore soleil.
Ah oui.
Après ça, tu t'en vas à l'épicerie, tu ressors. Ah, il y a une autre petite ondée pendant que j'étais rentré. Là, tu te ramasses chez vous, tu te refais mouiller, puis après ça, tu rentres chez vous. Tu fais comme, bon, trois averses aujourd'hui.
Non, mais j'ai été chanceux. Moi, j'étais allé deux jours pour la Coupe Vanier en 2011, me semble, puis j'ai été chanceux parce que j'ai eu une journée de soleil.
Ah, mais c'est ça. Des endroits comme ça, là, où que la température est instable, là, sujet numéro un de prédilection. Hey, juste avant de partir en pause, une petite nouvelle qui me touche, moi, parce que je suis un gamer.
Okay. Oh.
Beaucoup de gens le savent ou s'en douchent. Puis je suis très catégorisé, là. Je suis vintage gamer. Parle-moi de Nintendo, parle-moi de Super Nintendo. Ça, okay. C'est mes années à moi.
Tetris.
Tetris, je l'ai. J'ai la cartouche originale de Game Boy chez nous. J'ai encore un Game Boy original noir et blanc fonctionnel chez nous, là. J'ai une collection de consoles.
Je pense que j'en avais un noir et blanc, mais je n'ai acheté un couleur, puis j'ai encore celui de couleur.
Mon premier, c'est le Game Boy couleur. C'est ma première console à vie.
Moi, c'est le DS. Mais c'est quoi la machine pour jouer à Mario Kart, là, la plus vintage là, que tout le monde aura?
64.
Le premier Mario Kart, c'est Super Nintendo.
Oh, je pensais que c'était Nintendo.
Non, 64. La machine, là. C'est pas la Switch, là, c'est nouveau.
C'est ça, c'est la Nintendo. La console, Nintendo.
La Super Nintendo.
Ah, OK, ouais.
Parce qu'il y a eu une Nintendo des années de 85 qui s'avait l'air d'un magnétoscope, d'un VHS, puis c'était voulu. Parce que les consoles d'avant avaient tué le marché. Fait qu'ils voulaient, Nintendo voulait quelque chose qui avait pas l'air d'une console de jeux vidéo. Fait qu'ils ont sorti quelque chose qui avait l'air d'un VHS. Puis après ça, l'autre, après, c'est Super Nintendo. C'est là-dessus qu'il y a eu le premier Mario Kart.
Ouais, mais ça revient bien en mode, là. Tout le monde achète ça. Ben, c'est fun. Je trouve qu'il est bien plus fun de jouer là-dessus que sur la Wii, mettons.
Moi, je dis que dans le temps, les graphiques étaient tellement mauvais. Que t'étais puis les sons aussi, là. C'était des blips puis des bloops, là. Les jeux étaient tellement limité que t'étais obligé d'avoir une bonne histoire ou t'étais obligé d'avoir un bon gameplay, quelque chose qui t'embarquait nécessairement. Ouais. Parce que maintenant, t'as des cinématiques à plus finir, puis ça donne Cyberpunk 2077, là, où tout le monde fait comme, ouais, c'est plein de bugs.
Ouais, je l'ai pas.
Ouais, c'est ordinaire.
Mais tu vois, en même temps, tu peux avoir des... Je regarde là, la PS5, là, moi, je suis à côté, puis là, je parle peut-être moins à notre auditoire, là, mais Ratchet & Clank, c'est un jeu qui est une vieille franchise.
Mais c'est un classique du
PC. Mais c'est un classique, mais... De jouer sur la PS5 puis d'avoir le jeu en continu. Jamais tu t'arrêtes, sauf si tu veux t'arrêter. Ça continue, ça roule. Moi, je trouve qu'il y a de beauté aussi là-dedans. Puis les belles cinématiques, une belle histoire, moi, c'est un art là, quand c'est bien fait.
Puis loin de moi de dire que les jeux vidéo de 2021 sont inférieurs à ce qui se faisait dans les années 90.
Mieux.
J'espère. Il y a comme juste les vieux nostalgiques aigris qui disent ça. Mais. Ce qui est le fun, c'est qu'on est à une époque où est-ce que des gars comme moi qui ont grandi avec la Nintendo originale, maintenant on est rendu où est-ce que ça devient des articles de collection.
Ouais.
D'où le pourquoi je suis fier d'avoir encore mon premier Nintendo original que mon oncle nous avait acheté quand j'avais comme 10 ans. J'ai un Super Nintendo, j'ai un 64, j'ai une Wii, j'ai un PlayStation 1, j'ai une ColecoVision qui date de 1978. Ouais, je savais que Vel te faire un Hey Boy. Toi, ça dit quelque chose?
Oui. Quand je reconnais, je me considère relativement geek et connaissant en jeu vidéo, là, quand je reconnais pas le nom de la console, il y a un problème.
Mais la nouvelle qui a retenu mon attention aujourd'hui, ça concerne le jeu The Legend of Zelda. le premier Zelda original qui est sorti en 87 sur les Nintendo. Il y a une cartouche de Nintendo qui s'est vendue aux enchères.
C'est sûr, ça devait être ridicule.
D'après vous autres, là, Anne-Sophie, combien? Hey. Une cassette de Nintendo, là, combien ça peut s'être vendu?
Qui date de quelle année?
87.
Hey, je suis pas bonne là-dedans. Mais
le premier jeu de Zelda?
Oui.
Ah, peut-être...
600 000.
Hey! J'allais aller
avec
genre peut-être 20
000. Ouais, peut-être plus. Mettons 50, là, pour pas dire la même affaire. Là.
Vous êtes toutes dans le champ.
T'es-tu sérieux? On parle pas de millions, j'espère. Là.
870 000 US.
Ben, ah, j'étais pas si loin, là.
En dollars canadiens, ça fait 1 083 000.
J'étais à 600 000, j'étais pas si...
Pourquoi ils peuvent plus en produire des cassettes de même? C'est comme la dernière cassette au monde.
En fait, c'est la première.
Ouais, mais c'est la dernière dans le sens qu'il y a une rareté. Là,
ça ben, il y a une rareté de ces vieux jeux-là, d'un, parce que la majorité des gens, je veux dire, moi, ma PS4, je la donne, je la vends, je la recycle, j'ai une autre console, puis c'est ça que la majorité des gens font.
En fait, c'est plus la raison est plus basique que ça. C'est la façon que la cartouche a été cotée. Je vous lis la cote, puis je vous la décortique après. Okay? La cartouche de jeu porte la mention Legend of Zelda, Wata 9.0, Sealed, No Revision, Early Production, NES 87. Et voici ce que ça veut dire.
Okay, ça veut dire que ça n'a jamais été utilisé. Là.
Neuve, scellée d'origine et très peu endommagée, donc un score de 9.0 sur 10. La copie du jeu a été conçue en 87, ce qui est une copie du jeu avant la première révision de 88. C'est les révisions précédentes sont cotées différemment. C'est un jeu, cette version-là de la cassette a été sortie dans le marché nord-américain pour tester le marché. Donc, c'est avant la vraie run que tout le monde a acheté.
Donc, probablement qu'il y a des bugs dessus si tu l'utilises.
Il y a peut-être des bugs, mais il y a surtout c'est une pré-édition. Mm-hmm. Okay? Et la mention Early Production, sortie bien avant son lancement officiel, copie de jeu lancée avant le lancement pour tester le marché. L'enchère s'est fermée après plusieurs offres. 156 000, 204 000, 360 000 et finalement c'est 870 000 US pour une cartouche de Legend of Zelda 87.
Ah, je suis pas surpris.
J'ai encore de la misère à concevoir la motivation de quelqu'un d'acheter ça.
Ben, y a des gens qui dépensent des sommes presque aussi grandes pour une carte de baseball ou une carte de joueur de hockey. Là.
Exactement.
C'est un item de collection pour bien des gens. Là.
Parle à Sylvain Bouchard, qui collectionne les cartes de hockey. Il y en a parlé lui aussi que le marché de ça a augmenté puis pourtant ça reste c'est pire là, une cartouche de jeu vidéo, t'as de l'électronique là-dedans, il y a quelque chose de entre guillemets vivant là-dedans. Ta carte de hockey là, c'est une photo.
Ben, je sais.
C'est une photo avec des statistiques.
Je comprends pas. Mais je comprends pas ce monde là de dire une carte de hockey vaut tant. C'est une carte de hockey.
Mais ton salaire est en fonction de des gens qui veulent t'embaucher. Puis dans la Ligue nationale, c'est la même chose. Ça vaut pas 10 millions, un goaler.
Mais je suis capable de produire quelque chose, moi.
Oui, mais là...
Avec le peu de talent que j'ai, je suis quand même capable d'amener quelque chose à la personne.
Mais ta rareté fait en sorte que ta valeur augmente. Ton talent crée ta rareté qui fait ta valeur. C'est un peu la même chose. Cette cassette-là est probablement rendue unique au monde, là, ou à peu près.
Oui, puis...
Hey, y a des gens. Puis je dis pas que je paierais 1 million pour une cassette. J'ai même pas 1 million à mettre sur quoi que ce soit. J'ai même pas 15$ à mettre sur un vieux jeu, là. Mais la rareté est là-dedans. Puis sincèrement, moi, je suis capable de le comprendre parce qu'avoir le budget, j'aurais une collection beaucoup plus complète avec beaucoup plus de cassettes et beaucoup plus de consoles en bon état. Moi, la collection que j'ai chez nous, là, ça vaut à peu près rien parce que c'est tout utilisé. C'est tout, tu sais, graffiné, usé. T'sais, mes manettes originales sont plus utilisables.
Mais non.
Ma console est graffinée puis ma mère a écrit « Les Jacques » au feutre jaune, au feutre vert par-dessus. Fait que, tu sais, c'est sûr que mon Super Nintendo, il est full collant. Là.
Il vaut rien. C'est cool d'avoir ça.
Sentimental.
Mais oui.
Mais... J'en aurais acheté un en 90-91, un Super Nintendo. Je l'aurais gardé dans sa boîte. Puis aujourd'hui, je serais peut-être pas millionnaire, là, mais je serais capable de faire une coupe de pièces avec ça.
Ouais.
À 8h59, courte pause au retour. On apprend à se connaître. C'est le jeu des secrets.
Ooh. Le